Je souhaiterais vous proposer ce matin un texte que l'on n'a peut-être pas l'habitude de lire. Un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Sophonie, au chapitre 1. Parole que l'Éternel adressa sous le règne de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, à Sophonie, fils de Couchi, fils de Gedalia, descendant d'Amaria, et d'Ézéchias. Voici ce que dit le Seigneur. « Je vais tout balayer de la surface de la terre, » l'Éternel le déclare. « Je balayerai les hommes, de même que les bêtes. Je balayerai aussi les oiseaux dans le ciel et les poissons des mers. Tout ce qui fait trébucher les méchants. Je retrancherai l'homme de la surface de la terre, » l'Éternel le déclare. Je vais lever la main contre le peuple de Juda et contre tous ceux qui habitent Jérusalem. Je supprimerai de ce lieu ce qui subsiste de Baal. Je ferai disparaître le souvenir de ses desservants effrénés avec ses prêtres. Je ferai disparaître tous ceux qui se prosternent devant l'armée du ciel sur les toits des maisons. Et tous ceux qui se prosternent devant l'Éternel et jurent par lui, tout en prêtant serment au nom du dieu Moloch. Et ceux aussi qui se détournent de l'Éternel, qui ne se soucient pas de lui et qui ne le consultent pas. Que l'on fasse silence devant le Seigneur, l'Éternel. Car il est proche, le jour de l'Éternel. L'Éternel a prévu un sacrifice et il a convoqué ceux qui sont invités. Au jour du sacrifice de l'Éternel, j'interviendrai moi-même contre les ministres du roi, contre la cour et contre tous ceux qui s'habillent à la mode étrangère. En ce jour-là, j'interviendrai aussi contre ceux qui sautillent sur les marches du trône, contre ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. On entendra en ce jour-là, l'Éternel le déclare, près de la porte des poissons, des cris retentissants, des hurlements dans le nouveau quartier, et venant des collines, un fracas formidable. Habitants de la ville basse, hurlez. Lamentez-vous parce qu'il est anéanti, le peuple des marchands. Tous ceux qui croulent sous l'argent vont être exterminés. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des torches et je châtierai tous les hommes figés sur leurs réserves comme un vin sur la lie, se disant en eux-mêmes que l'Éternel ne fait ni du bien ni du mal. Leurs richesses seront pillées, leurs maisons dévastées. Ils auront bâti des demeures, mais n'y habiteront pas. Ils auront planté des vignobles, mais n'en boiront pas le vin. Car voici qu'il est proche le jour de l'Éternel. Oui, ce grand jour est proche. Il arrive à grands pas. On entendra des cris amers au jour de l'Éternel. Le guerrier le plus brave poussera de grands cris. En effet, ce jour-là est un jour de colère. C'est un jour de détresse et de malheur, un jour de destruction et de désolation, un jour d'obscurité et d'épaisses ténèbres. C'est un jour de nuages et de brouillards épais, jour où retentiront la sonnerie du cor et des clameurs de guerre contre les villes fortes et les hautes tours d'angle. Je plongerai les hommes dans la détresse et comme des aveugles, ils marcheront en tâtonnant parce qu'ils ont péché contre moi, l'Éternel. Leur sang sera versé comme de la poussière et comme des ordures, leurs corps seront jetés. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la colère de l'Éternel, lorsqu'il consumera la terre tout entière par le feu de son amour bafoué. Car il provoquera, et ce sera épouvantable, la destruction totale de tous ceux qui habitent sur la terre. Jusqu'ici notre lecture et je vous invite à prier. Notre Dieu et Père, lorsque nous lisons ce texte, ô combien nous tremblons. Mais nous savons que ta parole est la vérité. Nous savons qu'en elle et par ton esprit, nous pouvons puiser de nouvelles ressources pour avancer. Que nous puissions y trouver aussi de la sagesse pour accomplir ta volonté, Seigneur. Amen. Je vais bien dans l'ensemble, hein. Je n'ai pas choisi un texte qui est correspond à mon humeur du moment. Vous le savez, nous sommes dans la période estivale, les rangs sont un peu clairsemés. C'est un moment où parfois on s'arrête, parfois on fait le bilan de l'année, parfois on est en cours de transition, il y a les déménagements, il y a les mutations. C'est souvent aussi ces moments où on fait des relectures de ce qui s'est passé et peut-être qu'on se projette, on se dit voilà, quels sont les jalons pour l'année prochaine. Et j'ai choisi ce texte pour introduire un cycle, une petite saga d'été comme l'année passée autour d'Habacuc, mais là c'est autour de Sophonie. Petit prophète, dit-on, mais aux paroles bien aiguisées et acerbes, n'est-ce pas ? Petit prophète du 7e siècle avant Jésus-Christ, au ministère assez discret, mais ô combien retentissant, à Juda. Vous savez, ça fait partie de ces sagas historiques dont on sait un tout petit peu la fin, où on se doute. On a à l'horizon ce qui semble être une fin dramatique, et c'est ce qui est ici, semble-t-il, dressé. Peu d'espoir dans ce texte, peu de joie. Alors vous auriez dit, vous pourrez peut-être me dire, mais Fred, il y avait peut-être des textes un peu plus légers, pour un été, un peu plus sympa, joyeux. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais juste vous lire le chapitre 3, ce qui se trouve tout à la fin de cette saga. Voici ce que le même Dieu qui vient de dire ça dit à cette même ville de Jérusalem. Pousse des cris de joie aux filles de Sion. Lance un cri de triomphe au Israël. Réjouis-toi, exulte de tout cœur aux filles de Jérusalem. L'Éternel a levé le verdict de condamnation prononcé contre vous et il a refoulé vos ennemis. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de vous. Vous ne craindrez plus de malheur. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, sois sans crainte, Sion, ne baisse pas les bras, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, à cause de toi, il poussera des cris de joie et il exultera tout comme au jour de fête. Quelle transition, n'est-ce pas ? On passe d'un premier chapitre où il y a jugement, désolation, destruction, à cette joie profonde du Seigneur, à cet amour. Et se pose cette question pour nous, est-ce que nous avons envie de faire la joie du Seigneur ce matin et dans les semaines qui viennent ? Si c'est le cas, alors on a tout intérêt à lire ce livre de Sophonie. Parce que je crois et je suis convaincu que dans ce petit livre de Sophonie se dressent quelques petites lignes pour passer de la désolation à la joie, de la destruction à la reconstruction, à la recréation. Mais bon, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on revienne sur ce chapitre 1 pour ne pas faire abstraction de ces paroles un peu difficiles. Et pour cela, je vous propose trois clés de lecture. Il y a trois façons dont on pourrait lire ce texte au fond. La première clé, ce serait d'y voir un vieux texte, des archives à consulter. Ou pas, ces livres que l'on pourrait passer à la lecture assez rapidement. C'est vrai, après tout, ça ne nous concerne pas réellement, ce texte-là. Ça concerne un petit peuple, Juda, au 7e siècle avant Jésus-Christ. Alors, ils ont connu deux rois un peu corrompus, un peu bizarres, Amon. Et puis, avant lui, il y a eu Manassé. Alors, c'est vrai, il y a le bon roi Josias qui arrive, un roi qui va mettre des réformes. Il y aura un petit réveil spirituel, mais il semblerait que ce ne soit pas suffisant. Après tout, on n'est pas concerné par cette histoire-là, n'est-ce pas ? Alors oui, en plus, ça concerne les grands, les responsables religieux, politiques, les commerçants. Alors moi, je ne suis pas commerçant, je suis ni responsable politique, peut-être un peu responsable religieux, donc du coup, je me sens un peu plus concerné, peut-être. Alors oui, il y avait des dirigeants qui étaient corrompus, violents. C'est au loin, tout ça. Un peu que lorsque l'on regarde le G20, vous voyez ces beaux dirigeants qui se réunissent, on pourrait dire, oui, ils sont tous comme ça, tous corrompus. Et ça, ça les concerne, ces gens-là. On n'est pas concerné par ce que le Seigneur vient nous dire ici. Mais bon, quand est-ce que a eu lieu ce jugement terrible dont il est question dans ce chapitre 1 ? Quand est-ce qu'un peuple étranger est venu envahir Juda, l'emmener en exil ? Qui est-ce qui connaît la date exacte ? Stéphanie. 597. Ouf! Du coup, c'est bien loin tout ça, on est tranquille, n'est-ce pas? C'est de la vieille histoire. Donc cette menace ne nous concerne pas. Judas a été déporté effectivement en exil à Babylone. Vous connaissez aussi l'histoire de Daniel pendant ce temps-là, etc. On n'est pas concerné par tout ça. On peut arrêter notre méditation ici ce matin. Mais. Il y a quand même un problème si on garde juste ces lunettes-là pour regarder à distance cette histoire. Parce qu'il y a quand même, semble-t-il, un jugement. Oui, il y a un jugement intermédiaire pour Juda et Jérusalem, mais il y a un jugement un peu plus universel, n'est-ce pas? Lorsqu'on lit les premiers versets, l'Éternel va balayer les hommes, les oiseaux, les poissons. L'Éternel va déconstruire ce qu'il a créé. On a le même ordre que ce qu'on trouve dans le livre de la Genèse. Donc ça veut dire que le jugement est plus que local et pour Juda et pour Jérusalem. Il concerne vraisemblablement la terre entière. Alors, à notre tour de trembler, parce qu'il semblerait qu'on est bien concerné également par ce texte. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances. Non, évidemment, il faut aller un petit peu plus loin, n'est-ce pas? Alors, allons voir et adoptons une deuxième clé de lecture. Ici, il ne s'agit pas de prendre des petites lunettes pour voir de loin et de se dire « bon, ça ne me concerne pas ». Il s'agit au contraire de prendre des loupes pour voir un tout petit peu plus près ce que le Seigneur reproche à ce peuple, Juda, dont la capitale est Jérusalem. Et puis, on va faire par une lecture par miroir. On va dire « bon, voilà ce que le Seigneur reproche à ce peuple-là ». On va faire l'inverse et sur un malentendu, peut-être qu'on pourra passer entre... la fureur du Seigneur. Alors, qu'est-ce que Dieu reproche? La pratique du culte de Baal. Qui est-ce qui pratique ce culte ce matin? Pas beaucoup. Le culte de Baal, ce vieux dieu cananéen, vraisemblablement dieu de l'orage, que l'on invoquait, surtout au moment des récoltes, pour éviter que l'orage ne tombe sur le blé ou les autres plantes qui sont en train de pousser. Et qu'est-ce que fait le peuple de Juda, finalement? Alors, ils font comme nous ce matin. Ils adorent le Seigneur. Ils confessent « Ton nom est grand, ton nom est saint ». Ça, c'est le dimanche matin. Et le reste de la semaine, ils invoquent Baal. Ben, c'est vrai après tout, quoi. Je veux dire, on veut bien faire confiance à Dieu, mais il faut quand même mieux... assurer le coup, n'est-ce pas? Oui, le Seigneur va pouvoir, oui, le Seigneur peut nous protéger, mais bon, je peux invoquer Baal, ça va, ce petit Dieu. On accepte petit à petit ces petites compromissions. Et c'est ce qui s'est passé finalement. Même dans le temple de Jérusalem, on mélange les deux cultes. On invoque le grand Dieu d'un côté, et puis pour se rassurer, et puis pour assurer... avoir une assurance tout risque, on invoque le dieu Baal. On ne sait jamais, ça ne peut jamais faire de mal d'invoquer d'autres dieux. Le deuxième élément qui est, parmi tant d'autres, reproché à Juda, c'est l'astrologie. Qui est-ce qui a consulté son horoscope ce matin avant de venir au culte? Personne. Mais c'est ce qui semble qu'il faisait à l'époque. Il consultait les astres pour voir un tout petit peu là où allait conduire leur destinée. Et puis même pire, ils se prosternaient devant ces astres lumineux, incroyables, qui étaient là en fait pour révéler la splendeur de Dieu. Ils n'avaient pas des lunettes pour voir de près, ni des lunettes pour voir de loin, ils avaient des lunettes déformantes. Au lieu d'adorer le Créateur, ils adorent la création. Et ils sont bien là, sur leur toit, il fait frais, à se prosterner devant les astres. Autre reproche, ces pseudo-serments. Oh oui, je te jure que je ferai ça et j'invoque le nom du Seigneur. Bon, j'invoque aussi d'autres dieux, quoi. Je le ferai. Il y a aussi, pire encore, tous ces hommes qui ne cherchent plus Dieu, qui ne le consultent pas. Et toutes ces choses-là, nous, on ne les fait jamais, n'est-ce pas? Alors, on ne fait pas le culte de Baal? Mais quelles sont les choses que l'on met en œuvre par manque de confiance en Dieu? Alors, pour couronner le tout, il s'habille très mal, semble-t-il. Il porte des vêtements étrangers. Il ne s'agit pas de vêtements qui ont été faits à l'étranger. Il ne faudrait pas s'habiller avec des vêtements, regardez vos étiquettes, qui ne sont pas faits en France. Bon, ça, c'est après, c'est du, voilà, c'est la conscience personnelle, n'est-ce pas? Mais il ne s'agit pas tout à fait de ça. Encore que les vêtements sont parfois souvent des signes extérieurs d'un certain nombre de choses qui se passent à l'intérieur. Et c'est ce qui se passait à cette époque-là, finalement. Ces vêtements étrangers, c'est ni plus ni moins qu'un signe extérieur de leur désobéissance à Dieu. Ils veulent être comme leurs voisins, comme les Assyriens. Et en portant leurs vêtements, finalement, ils se mettent en décalage par rapport à la volonté de Dieu. Dieu qui avait prévu un certain nombre de contextes vestimentaires, des vêtements simples, des vêtements qui lui soient dédiés, qui soient signe finalement de cette confiance. Ne vous souciez pas de quoi vous serez vêtus. Mais eux, ils préfèrent être sapés comme jamais, avec des petites dorures et puis des petites choses comme ça. Mais bon. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, une fois qu'on a vu parmi ces nombreux reproches, ces actions répréhensibles, qu'est-ce qui nous reste à nous? Bon, c'est vrai, on ne consulte pas les horoscopes. On ne pratique pas le culte de Baal, vous me l'avez certifié et je vous fais confiance. C'est rare qu'on se prosterne devant le soleil ou la lune pour l'adorer. Alors certes, on ne s'habille pas toujours, comme il faudrait peut-être, j'en sais rien. Mais alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire si on adopte juste ces lunettes de ces pratiques? Pas grand-chose, semble-t-il. Alors on pourrait transposer un certain nombre de choses, trouver ce qui dans nos vies pourrait remplacer Baal, trouver dans nos vies qu'est-ce qui pourrait ressembler à des vêtements étrangers, à ces signes de désobéissance. Mais bon, ce n'est pas tout à fait satisfaisant. On a du mal à voir ça. Alors, ce qu'on pourrait peut-être faire, ce que je vous propose, c'est de prendre à la fois des lunettes pour voir de loin en vous disant ou en nous disant que ce texte ne nous concerne pas, c'est au loin, et en même temps, des lunettes pour voir de plus près et nous dire, bon, ces actions répréhensibles ne nous concernent pas non plus. Parce que nous, au 21e siècle, nous avons la technique, le progrès. L'homme s'améliore. On est de plus en plus capable de faire de bonnes choses, n'est-ce pas? Nous arrivons à corriger toutes ces choses, nous évoluons positivement. Alors bon, toutes ces choses un petit peu archaïques. Nous, les chrétiens, si nous le sommes, on est plus proche du Nouveau Testament que de ce vieux texte-là. Le Nouveau Testament beaucoup plus sensible, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus prometteur. Non ? Vous n'avez pas l'air très convaincu. Alors, je voudrais juste vous lire un texte qui est l'Évangile, la Bonne Nouvelle, et qui n'est pas très très loin de notre texte de Sophonie, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés, tous corrompus. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, non pas même un seul. Leur gosier ressemble à une tombe ouverte, leur langue sert à tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine d'aigres malédictions. Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang. La destruction et le malheur jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. À leurs yeux, révérer Dieu n'a aucun sens. Alors qu'est-ce qui nous reste? Si l'Ancien et le Nouveau Testament dressent le même constat pour notre humanité, qu'est-ce qu'il nous reste? Si nous regardons notre monde, notre société, il est assez facile d'être d'accord avec ces textes-là. Mais si nous regardons à nos cœurs, Est-ce que nous ferions un portrait plus élogieux de notre monde, notre société et notre cœur que ces deux textes-là, Sophonie et Romains ? Personnellement, je ne le crois pas en me regardant évoluer dans cette vie. Le problème est donc plus profond. Et d'ailleurs, le verset 17 dans Sophonie nous le rappelle. Quel est ce problème ? Le problème, c'est le péché, cette tendance au mal là, qui est ici, au plus profond de l'être humain. Alors le Seigneur a bien des fois, dans tout l'Ancien Testament, essayé de remédier à cette problématique. Il y a eu le déluge, il y a eu tous ces épisodes où le Seigneur a renouvelé son alliance. Mais le problème est plus profond que cela. Et du coup, si on revient au jugement universel de départ, on se retrouve dans une position où on devrait un peu trembler. Parce que si le problème vient d'ici, et non pas de comportement que je pourrais avoir pour faire paraître et pour être devant Dieu avec cette belle couverture artificielle, alors il ne nous reste plus qu'à trembler. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes vacances. Et non, vous en doutez, il y a une troisième clé de lecture pour ce texte-là. Une troisième clé qui ne fait pas abstraction des deux premières, mais qui nous fait voir les choses en trois dimensions. Une troisième clé de lecture qui est offerte par l'Évangile. Christophe en a esquissé quelques mots dans la première partie. L'Évangile. Je crois qu'on mesure la profondeur et l'incroyable densité de l'amour de Dieu à travers l'Évangile lorsque l'on lit des textes comme Sophonie 1. Est-ce que vous avez remarqué pourquoi ou qu'est-ce qui anime la justice de Dieu dans Sophonie 1 ? Au verset 18, est-ce que c'est une cruauté implacable ? Est-ce que c'est une fierté mal placée ? Est-ce que c'est une réponse sans pitié à un affront qui lui aurait été fait ? Le verset 18 dit non. Selon les traductions, c'est l'amour bafoué ou la passion jalouse, selon les traductions. Le Seigneur nous aime profondément et il ne supporte pas de voir quelque chose ou quelqu'un se mettre devant ces personnes qu'il aime. Imaginez un instant que celui ou celle que vous aimez plus profondément vous est remplacé par quelque chose qui est sans vie et qu'il vénère profondément. Ça peut être des écrans, des téléphones, des tablettes. Cette personne que vous chérissez, avec qui vous avez envie de passer du temps, passe du temps avec cet objet. Oh, ça peut être un livre, que sais-je encore. Les moments de qualité que vous espériez avec cette personne-là, rien, nada. Pourquoi ? Parce que cette personne trouve un réconfort dans cet objet qui est là. Oh combien c'est difficile à recevoir, n'est-ce pas ? Alors imaginez lorsque c'est Dieu. Imaginez lorsque c'est Dieu. Celui dont l'amour est parfait, inconditionnel, illimité. Oh combien aussi il est en peine de voir des personnes se détourner de lui et d'essayer de le rejoindre ou rejoindre par des chemins de traverse. Oui, du coup, la colère est terrible. Tous ont péché, dit l'Épître aux Romains. Tous ont péché, mais ils sont déclarés justes par sa grâce. Voilà les lunettes en 3D qui permettent de voir le plan incroyable de Dieu, de comprendre que celui qui a pris le jugement, la colère de Dieu, celui qui a entendu ce silence, vous avez remarqué, faites silence, le jour de l'Éternel est proche. Celui qui a porté le poids de la colère de Dieu, c'est un homme, il y a plus de 2000 ans, sur la croix, et qui, face au silence de son Père, a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est lui qui reçoit la colère de Dieu. Alors nous qui étions morts autrefois à cause de nos fautes, de nos péchés. Nous qui étions du coup destinés, pour paraphraser ce que dit Paul, à subir la colère de Dieu, comme le reste des hommes, nous autres, nous sommes l'objet de l'amour de Dieu. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et s'ouvre alors une nouvelle vie, une vie faite de nouvelles possibilités. Si nous croyons profondément que Jésus-Christ est ce sacrifice que Dieu avait préparé pour se réconcilier avec les hommes, si nous confions pleinement notre vie à Dieu, ça doit changer quelque chose dans notre vie. Ça doit changer quelque chose. Et ces lunettes 3D qui nous permettent de comprendre l'Évangile doivent nous permettre de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Alors nous sommes invités, chers amis, dans cette réalité de l'histoire qui se déroule, sur laquelle parfois nous avons peu d'emprise, à regarder aussi à nous-mêmes, à ne pas regarder la corruption ou la violence apportée aux autres. Bien sûr, c'est répréhensible, et ça appartiendra à Dieu de rendre justice à qui de droit. Mais nous qui sommes au bénéfice de cet amour de Dieu, nous sommes invités à, au milieu de ces inquiétudes parfois, de nos doutes, de nos épreuves, à expérimenter à nouveau cette profonde présence de Dieu, ce Dieu-là, créateur, capable de dévaster un certain nombre de choses, même toute sa création. Celui-là, il vient faire la présence, il vient remplir notre vie de sa présence par son Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Nous n'avons pas en nous-mêmes une petite flamme qui va s'éteindre, mais la profonde présence de Dieu par son Esprit. Alors qu'est-ce que ça va changer? Tout doit changer. Et nous sommes invités, comme le dit Paul dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 14, que je vous lis, que toute votre vie soit dirigée par l'amour. Non par la peur du jugement, non par la distance vis-à-vis de ce qui se fait dans ce monde, mais dirigée par l'amour. Et nous sommes invités non pas à nous habiller avec des vêtements étrangers, mais à revêtir le lien de l'amour qui est le lien par excellence. Alors, dirigé par l'amour, c'est tout un programme. Et c'est ce qui vraisemblablement manquait à cette époque de Sophonie. Un amour pour Dieu, un amour exclusif pour Dieu. Autrement dit, laisser pleine et entière place dans notre cœur et pas de mettre un petit bal. Oui, Seigneur, je te fais confiance, mais on ne sait jamais. Non, je veux être un adorateur pleinement et entier, exclusif pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui peut pourvoir à tous mes besoins. L'amour pour Dieu, c'est aussi une confiance exclusive en Dieu. Pas est toujours évident, n'est-ce pas, de faire confiance à Dieu. Seigneur, je te prie, depuis tant d'années, depuis tant de mois, depuis tant de jours, depuis de tant d'heures, depuis tant de minutes, pour cette chose-là. Et je ne la vois pas arriver. Pas facile de faire confiance. Et pourtant, celui qui est le maître de l'histoire, comme nous le rappelle Sophonie 1, c'est Dieu. Ce Dieu que nous appelons notre Père. Et pour terminer, si nous sommes appelés à être dirigés par l'amour, je crois aussi vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis de notre prochain. Livrer notre vie comme le Christ a livré la sienne. L'accueil, la patience, le partage, la solidarité, c'est cela, être dirigé par l'amour. Ne pas regarder à l'apparence, aux beaux vêtements, ne pas regarder aux tentatives de corruption, de violence, mais regarder l'autre avec le regard de Dieu, le regard que le Christ a porté sur chacun et chacun d'entre nous. Alors, chers amis, conscients que nous sommes à une étape de l'histoire de la création, conscients que le jugement est déjà tombé sur le Christ, il nous appartient maintenant de marcher ensemble, d'être conduits et dirigés par Dieu, mais surtout que nous soyons pleinement et entièrement dirigés par Dieu. par l'amour. Que le Seigneur fasse connaître à chacune et à chacun ses voies particulières, le chemin qu'il a tracé. Mais qu'en toute chose, nous ayons confiance en Dieu. Et qu'en toute chose, nous ayons conscience de sa grande puissance et de son profond amour. Je vous invite à prier. Notre Dieu et Père, combien il est réjouissant de lire ton évangile. Combien nous mesurons aussi notre profonde ingratitude, indignité à recevoir un tel amour de toi. Seigneur, nous ne savons parfois pas où nous allons. Face à nos inquiétudes, au milieu des épreuves, au milieu des doutes, nous serions bien tentés de te laisser une plus petite place dans nos décisions, dans nos cœurs, dans notre volonté. Nous sommes si souvent tentés d'agir par nous-mêmes, de nous confier en nous, en nos forces. Et Seigneur, nous voulons te demander pardon, parce que nous sommes conscients que toutes ces petites choses, ou ces grandes choses, sont des choses qui t'offensent, des choses qui te font mal, et pour lesquelles, Seigneur, tu as payé le plus grand prix en envoyant ton Fils Jésus-Christ à la croix. Seigneur, fais de nous des serviteurs, des adorateurs exclusifs, des personnes entièrement confiantes en toi. Seigneur, remplis-nous aussi de ta présence, de ton Esprit Saint, et que tu règnes au milieu de nous et en nous, pour qu'ensemble, dirigés par l'amour, qui est le lien par l'excellence, nous puissions être témoins, non pas d'une parole de jugement, mais d'une parole d'espérance. Car nous savons, c'est en toi qu'est l'espérance, c'est en toi qu'est l'espoir pour le monde. Seigneur, fais de nous des artisans de cet espoir et de cette espérance au quotidien. Amen.